Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors, je vous présente je vous présente Stéphane aujourd'hui qui va venir raconter son histoire. Stéphane, plein de vie, avec beaucoup de rire, je le sens très, très vivant. Je l'ai croisé déjà dans des meetings, donc on s'est déjà croisé, mais j'ai jamais entendu son histoire, jamais entendu son partage. Donc, avec vous, je vais le découvrir aujourd'hui durant cette émission. J'ai bien hâte d'entendre ça, cette petite boule d'énergie-là. Et puis, sans plus tarder, je lui cède la parole à toi, cher Stéphane.
Merci Isabelle. Alors, mon nom, c'est Stéphane et je suis un alcoolique. Puis aujourd'hui, je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Puis moi, je vous remercie beaucoup d'être là parce que sans vous, c'est impossible. J'ai déjà essayé tout seul, ça n'a pas marché pas vraiment. Puis j'ai besoin de vous. Fait que merci d'être là. Alors, là, je vais vous conter un petit peu d'où je viens. Moi, je suis né à Boucherville. Je suis le dernier de 4 gars. Et puis, j'ai vécu avec dans une famille imparfaite. J'étais allé à l'école dans une école imparfaite, avec des amis imparfaits. Et la vie s'en est suivie avec des patrons imparfaits, hein, mon ex imparfaite, mes enfants imparfaits, on pourrait même dire aussi les gouvernements imparfaits. Puis aujourd'hui, je suis avec vous, puis aussi les membres d'Alcooliques Anonymes imparfaits. Puis ça m'a forgé un caractère que j'ai aujourd'hui qui est imparfait. Puis mon but aujourd'hui, maintenant que je suis avec vous, c'est d'essayer de revenir à l'enfant pur que j'étais à la naissance. C'est comme on dit la croissance, hein, une croissance spirituelle. Mon but, c'est d'essayer d'être le mieux possible. Donc, moi, comme je dis toujours, j'étais un concombre. Et puis, j'étais un petit peu trempé dans le vinaigre, si on peut appeler l'alcool. Et puis, je suis devenu un cornichon. Et puis, un cornichon, malheureusement, ça redeviendra jamais un concombre. Je l'ai essayé, vous pouvez l'essayer, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Fait que, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je suis devenu alcoolique. Et puis, je redeviendrai jamais un non-alcoolique. Et puis,
t'es arrivé avec nous, t'étais un concombre, puis t'es devenu un cornichon parce que t'as trempé dans l'alcool un peu trop longtemps.
Bon, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Je sais pas d'où ça vient, d'où ça vient cette maladie-là, si on peut appeler ça aussi, d'où je suis venu alcoolique. Est-ce que c'est mes blessures d'enfance? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est mon grand-père? Est-ce que, et aussi, je sais pas non plus, c'est où la fameuse ligne du non-retour? Je sais pas, je peux pas donner une date vraiment, mais il y a quelque chose que je sais, c'est que je suis devenu, que je suis un alcoolique. Et puis, Donc, là, je suis tellement content d'être avec vous. Moi, je vais, dans le fond, toutes les occasions, moi, dans ma jeunesse, surtout dans mon adolescence, ça a commencé à 14 ans, toutes les occasions étaient bonnes pour boire. La première fois que j'ai bu, évidemment, c'était pour enlever les peurs. Moi, j'avais peur des autres. J'avais peur qu'ils me battent. Et puis, j'avais cette peur-là. J'avais la peur aussi de parler aux filles. Fait que moi, dans le fond, quand que j'ai pris mon premier six-pack, ben moi, j'ai comme été un superman. Et puis, je pouvais parler aux filles. Je pouvais parler plus aisément à mes chums, tu sais, sans avoir peur. Fait que moi, ça a commencé comme ça. Puis, ça a été de même toute ma vie. Et moi, j'avais besoin de l'alcool pour vivre et puis pour enlever ces peurs-là. Et puis, comme je dis, à un moment donné, moi, ça a été doucement. Ça n'a pas été quelque chose qui est arrivé, comme au début, c'était plus les fins de semaine. Mais quand j'en prenais, tu sais, j'avais hâte à la fin de semaine de la prendre, tu sais, puis ça faisait la job, tu sais. Et puis après ça, au fur et à mesure, avec le temps, ben ça devenu à tous les jours. Je peux pas donner vraiment de date comme j'ai dit, mais ça doit être dans la vingtaine. Fait que à partir de 27 ans peut-être, j'ai commencé à boire à tous les jours après le travail. Moi, je buvais pas au travail. Parce que j'avais une autre obsession, c'était le cash. Fait que j'en ai pris quelques fois avec des clients, parce que moi j'ai une entreprise, et puis ça a vraiment pas été bon. J'avais peur de perdre mes clients, je disais des conneries, et puis moi j'ai eu la chienne de perdre les clients, donc j'ai dit ok, non. Ça, c'est pas pour moi. Puis quand les gens m'en offraient, je disais vraiment non. Là, parce que je savais que si j'en prenais une, ça pouvait chirer. Donc, ensuite, moi, je vais aller directement à mon bas-fond. Ben, pas à mon bas-fond, mais à l'élément déclencheur qui a été... Moi, j'étais marié. Et puis, j'ai deux enfants. Et un jour, quand ça faisait 16 ans, 17 ans de mariage, ma femme de l'époque, elle me dit un matin, elle dit, garde, aujourd'hui, on va être frère et sœur. Fait que, moi, moi, j'assume ça, s'occuper des enfants, puis garde, là, je suis tanné, je veux prendre soin de moi, je veux m'occuper de ma carrière, tu sais. Fait que là, moi, à ce moment-là, ma vie s'arrêtait là. Je vais avouer, c'était comme... C'est comme quand je revenais, dans le fond, 17 ans avant, quand je me suis marié. Moi, c'était pour cette raison-là que je me mariais, parce que j'avais un vide intérieur, le mal de vivre. Le mal de vivre qui est vraiment une... Comment on peut appeler une solitude. C'est vraiment quelque chose de très douloureux. Et puis, ça se mélange l'anxiété là-dedans, le désespoir. Et puis... ça, moi, l'alcool a justement aidé à enlever ça. Mais quand moi, mon ex, qui aujourd'hui m'a dit ça, ben moi, je buvais sur les breaks, comme on dit. C'est que je pouvais pas boire trop parce que elle me disait tout le temps, encore un autre. Elle me disait même que j'étais alcoolique. Et puis, tu sais, le matin, elle se levait, puis ça puait l'alcool dans la chambre, t'sais. Mais, tu sais, elle a raison de le dire aussi, regarde, c'est ça qui est ça, tu sais. Elle buvait pas. Fait que moi, ben, pour pas la perdre, ben, je me breakais. Tu sais, je me disais, OK, pas là, tout ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'obsessions. Je pensais toujours à l'alcool, je pensais à l'heure que je devais boire. La semaine, c'était après la job, c'était correct, je travaillais, je suis pas un alcoolique, je peux prendre une bière, c'est correct, tu sais. Et puis la fin de semaine, c'était midi. Il fallait pas que ça soit 11h30, parce que sinon j'étais un alcoolique. Fait que moi, je m'achetais tout le temps l'idée que j'étais pas un alcoolique. J'étais comme les autres, tu sais. Mais j'étais comme les autres alcooliques, dans le fond, tu sais, parce que ceux qui étaient non alcooliques, ils il pensait pas à ça, tu sais. Moi, je me dis que j'essayais de contrôler ma consommation. C'est quelqu'un qui contrôle, ça veut dire que si je contrôlais, ça veut dire que j'avais pas de contrôle, tu sais. Fait que déjà là, tu sais, c'est ça, j'étais dedans. Et puis, donc, quand elle m'a dit ça, moi, je retournais avec le mal de vie, le désespoir, puis là, j'étais en mode survie. Et puis là, j'ai vu qu'elle était plus, elle m'aimait plus, puis qu'elle couchait en bas, puis je couchais en haut, et puis que les enfants ils étaient dans leur chambre avec leur iPad, puis ils jouaient à des jeux, ben moi, là, je me suis dit, OK, yes, là, je suis libre. Et là, j'ai ouvert les valves, et puis j'ai commencé à ouvrir les valves du vin et du whisky.
Ça termine bien notre premier segment, Stéphane. Merci. Non, ça a super bien été. On comprend où tu t'en vas, en tout cas. t'as bien placé ça pour qu'on voit où est-ce que tu vas aller avec ton vin et ton whisky. En attendant d'entendre la prochaine étape, on va aller tout de suite à la pause. Alors, restez avec nous, mes chers auditeurs. On vous aime puis on veut vous garder. Alors, on va suivre l'histoire de Stéphane tout de suite après.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous voilà de retour à l'émission Un jour à la fois. Et puis là, comme c'est mon habitude, je vous lis un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai pris un texte des réflexions quotidiennes, réflexions de membres des AA à l'intention de tous les membres. C'est drôle comment c'est écrit ça. Alors voilà, c'est la page 333. J'ai pas fait exprès, je viens de me rendre compte, 333. C'est la page qui est du 20 novembre. Ta volonté, non la mienne. À chacune de nos demandes précises, il sera bon d'ajouter cette condition, si c'est là ta volonté. Les 12 étapes et les 12 traditions, page 116. Je demande simplement que Dieu me donne la meilleure compréhension possible de sa volonté, ainsi que la grâce de l'exécuter tout au long de ma journée. À mesure que la journée avance, quand j'ai à faire face à certaines situations et à prendre des décisions, je fais une pause et renouvelle cette simple demande. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je dois toujours me rappeler en toute occasion que j'ai la responsabilité des efforts et que Dieu a celle des résultats. Il est plus facile de lâcher prise et de laisser agir Dieu quand je répète humblement « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». La patience et la persévérance dans la recherche de sa volonté à mon égard me libéreront de la souffrance des attentes égoïstes. Ouais, vraiment, là, à lire et à relire, ça fait vraiment partie de notre programme entre autres de la troisième étape. Alors, je laisse Stéphane continuer là avec le party qui commence, parce que aussi sa conjointe a décidé de faire chambre à part, puis il se rend compte que ses enfants aussi sont rendus une étape où sont détachés, puis là il se dit bon, je suis libre de faire de y aller go avec le whisky puis le vin. Fait qu'en tout cas, je te laisse parler de tout ça, comment ça va se passer pour toi.
Bon, donc après coup, là, que je peux me rappeler, tu sais, comme le début de mon bas-fond, tu sais, quand on dit que la maladie, c'est une maladie progressive, moi, tu sais, comme j'ai pas bu, tu sais, je buvais ces breaks, puis juste dans les parties, tu sais, fait que moi, quand j'ai ouvert la valve, mais ça a été très vite, là, j'avais plus d'inhibition, je me foutais de tout. Et puis là, j'ai buvais toujours quand même le soir, parce que j'avais toujours mon obsession pour le cash et l'insécurité financière, incroyablement. Et puis, donc moi, c'est quand que, dans le fond, c'est quand que je revenais du travail, tout de suite, moi j'avais déjà mal à la tête, là, à peu près vers 4 heures, là, ça partait. Fait que là, c'était le signal que là j'étais comme grandé dans ma tête tout de suite, alcool. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je partais avec mon camion, puis là, j'allais au DEP, puis là, je m'achetais mes Heineken, mes canettes d'Heineken tout de suite, bien fraîches. Puis tout de suite, dans le troc, c'était, j'ouvrais ça, puis ça prenait pas de temps, puis je la buvais. Fait que déjà, j'étais dans une obsession, puis dans le fond, là, après ça, je partais jusqu'à chez moi. Puis j'y buvais dans l'auto, en surveillant, bien sûr, s'il n'y avait pas de police. Fait que dans mon quartier, c'était très joyeux. Donc, moi, c'est ça. J'arrivais, puis je buvais. Et puis, ça a été, après ça, c'est comme je dis, le whisky, tu sais, le vin après le souper. Après ça, c'était le whisky jusqu'à temps que je m'endorme, dans le fond, tu sais. Puis, il fallait toujours que j'aie un verre. Je pouvais pas avoir un verre vide, tu sais, même avant de me coucher, c'était comme une autre affaire. Il fallait que je me lève, puis j'aille encore me servir un verre avec la glace. Peut-être je le buvais même pas, mais il fallait qu'il soit là. On dit, il fallait que j'aie comme un espèce de ma bouée, il fallait qu'elle soit là, tu sais, pour que je sois bien. C'est ça. Bref, moi j'ai aussi ouvert autre chose là. C'est vu que j'étais dans ma chambre tout seul là, et j'ai ouvert l'application Tinder. Fait que ça, c'était une autre affaire que j'ai rentré. Je veux pas en parler trop parce qu'on le connaît qu'anonyme, mais j'ai quand même, moi je chattais avec des Cubaines. Là, j'étais parti dans un trip Cuba, mais vraiment sérieux, où ce que je voulais me marier avec une Cubaine. Et puis ça fait, je dois avouer que ça fait partie de mon bas-fond. Et en même temps, ça fait partie aussi des graines que ces Cubaines-là m'ont semées. C'est drôle à dire, mais ces filles-là, ils voulaient me marier aussi, c'est sûr, tu sais. Mais ils me disaient, Steph, Esteban, ils me disaient, tu sais, t'es tout le temps qu'un drink, parce que j'avais tout le temps mon drink, ils me voyaient pas, c'était tout le temps, on se parlait par voice, puis ils me disaient, hey, tu bois tout le temps, j'entends ton drink, tu sais. Elle dit, regarde, Steph, là, tu pourras pas t'en sortir avec ça. Elle dit, c'est juste dans une clinique que tu vas pouvoir guérir ça. Puis moi, j'étais là, ouais. Mais ça, là, cette petite cubaine-là, elle m'avait semé la première graine de pour rentrer finalement dans Alcoolique Anonyme. Et puis, il y a plein d'autres petites graines. Dans le fond, j'étais peut-être prêt à les écouter, comme mon ex qui me disait, puis qu'on voyait bien que c'était comme un peu la fin, là. Elle me disait, Steph, si tu veux une femme, là, faudrait que t'arrêtes de boire, c'est pas une femme qui a de l'allure, tu sais. Une autre graine. Fait que, tu sais, ma mère qui me disait, arrête de boire, puis un monsieur où je conduisais. Moi, j'allais au soccer de mon fils, tu sais, puis moi, c'était ma place pour boire, tu sais. Puis, il y avait un monsieur qui, tu sais, il me voyait aller, tu sais, qui partait, tu sais, moi, je buvais, puis il me voyait aller avec mon fils, tu sais. Il dit, ouais, il dit, boire en conduisant, moi, en tout cas, c'est pas, je trouve que ça va pas ensemble. Tu sais, c'est toutes des petites graines, tu sais. Puis, à un moment donné, moi, ce qui m'a amené dans A, c'est l'anxiété. Et puis, j'ai toujours été anxieux, mais là, avec l'alcool, quand l'alcool, j'avais bu toute la journée, moi j'arrivais le soir, me couchais vers minuit, on va dire, mais à 2 heures du matin, j'avais des crises d'angoisse incroyables dans le lit. Moi j'avais toutes sortes de plans en plus, tu sais, des merveilleux plans d'aller à Cuba, là, puis de marier. Donc c'était tout en même temps, les enfants qui étaient plus là, la chicane, puis à un moment donné, j'ai eu vraiment de l'anxiété, tu sais, généralisée. Et puis, même, j'ai eu de l'agoraphobie. Pour vous dire c'est quoi l'agoraphobie, c'est que moi, là, je sortais dans la rue là, à 15 maisons chez moi et j'avais des crises de panique. J'avais peur d'avoir des crises de panique. Puis un soir de novembre, écoute, c'était tout noir, j'étais vraiment dans le désespoir avec tout ça, cette anxiété-là. Et puis, j'ai eu des pensées suicidaires. Je me voyais avec un gun sur la tête. Mais en même temps, je me disais, non, tu sais, écoute. Mais c'était comme une porte de sortie. Puis, je suis arrivé au fameux mur le fameux mur où que j'étais plus capable, je pouvais pas me suicider, je voulais pas parce que j'ai des enfants, puis je voulais pas prendre des pilules aussi parce que je n'avais déjà pris dans la jeune vingtaine, et puis je voulais pas retourner là-dedans, il y a aucune issue, et puis finalement j'ai eu un point de désespoir, et puis toutes les petites graines qui ont été semées à un moment donné, ils m'ont fait que un jour j'ai eu l'idée que je devais changer. Puis moi, la fameuse, mon oncle aussi était dans AA, puis tout ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais le 6 décembre 2019, j'ai appelé la ligne d'écoute, puis j'ai googlé AA, j'étais arrivé à AA, j'imagine AA 87, puis j'ai appelé, puis il y a Francis, c'était un vendredi soir à 6h30, j'ai appelé Francis, et puis il me parlait pendant une heure de temps, puis il me parlait de toutes ses déboires avec l'alcool. Il avait eu sa photo dans le journal, il avait fait de la prison, puis il me disait qu'il était super bien aujourd'hui, puis qu'il s'en est sorti avec justement avec les A. Puis il m'a tout expliqué un peu c'est où le meeting proche, tout ça, tu sais. Fait que j'ai dit ok, je vais y aller. Il m'avait expliqué, tu vas prendre une enveloppe du nouveau. Si tu veux, tu peux te lever, puis tu sais, le dire, t'es alcoolique, tu sais. Moi, je te suggère vraiment. Puis j'ai dit, ok, Francis. Puis moi, je suis allé là, à Boucherville, un vendredi soir, le meeting de 20h. J'étais arrivé à 20h03, parce que c'était, quand j'étais arrivé là, c'était le 6 décembre. Là, il y avait plein de monde qui riait. C'était, puis ça jasait. Puis moi, j'étais dehors, je regardais ça, oh my God. Moi, dans ma tête, je me disais, non, c'était un party de bureau, mais je savais que c'était AA, là, tu sais. Mais j'étais ben trop gêné, moi, d'aller là. Et puis, fait que là, finalement, j'ai eu le courage d'y aller, puis j'ai rentré à 8h02, je me suis assis, puis là, il y a eu l'accueil du nouveau, Sylvie qui m'a accueilli, et puis moi, ça s'est passé là. Quand j'étais allé en avant, j'ai parlé, puis moi, j'ai eu comme, j'ai dit, wow, eux autres, ils l'ont fait. Ben, pourquoi pas moi? Fait que, écoute, ça a été merveilleux. L'accueil que j'ai eu, ça a été magnifique. Tout le monde heureux. Puis je parlais de mon divorce, que j'allais me divorcer. Tout ça, j'étais pas encore sûr, j'avais pas rien signé encore, mais dans ma tête, quand j'étais là, j'ai senti que j'arrêtais jamais seul. C'est fou, c'était comme ça. Puis là, j'ai vu, moi, l'affaire qui m'a surpris, c'est la fameuse file, quand qui, après, les comme, moi, j'avais aucune idée, là. Moi, j'étais comme, le meeting finissait. Là, il y avait une file de 12 personnes, tu sais, qui m'attendaient, les chicanaient pour me donner le gros livre. Là, j'avais le gros livre dans les mains. Puis là, tout le monde me dit, hey, super, bravo. J'étais là, wow, qu'est-ce que c'est ça? Une file d'attente. Puis je suis revenu chez moi avec le gros livre. Puis j'ai dit à mon fils, Laurent, papa, il est sauvé. Papa a trouvé la clé. Ça va aller bien maintenant.
Hey, wow! L'accueil dans AA, super important dans nos meetings, puis ça, le nouveau, c'est toujours le plus important, puis je vois que ça a été le cas, t'as été bien accueilli, puis je suis touchée, là, je suis touchée parce que c'est un meeting que je connais bien, puis aussi, je bouge bée, c'est comme si je suis restée accrochée à ton jeton du nouveau, puis ton accueil, puis t'arrives avec ton garçon, puis je suis sauvée, je trouve ça extraordinaire. C'est comme la lumière qui se fait tout à coup, hein, délivrée de tellement. Tu sais, on a l'espoir que les souffrances vont s'en aller, ou bien en tout cas que enfin il y a du monde qui me ressemble, enfin il y a du monde qui sont heureux, puis ils ont passé par les mêmes places que moi, c'est tout des alcooliques, puis il y en a plusieurs dans ce meeting-là. Effectivement, c'est un gros meeting. Merci beaucoup, Stéphane. J'espère que vous allez rester avec nous. On s'en va à la pause, puis on vous revient tout de suite après.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est « Un jour à la fois, trait-d'union-émission.org ». Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à « Un jour à la fois » par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour de 2020 jusqu'à maintenant 2022, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter via toutes les plateformes que vous connaissez. Et si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Comme toujours, je dis, c'est un fameux bonheur de vous accueillir ici. Alors, vos commentaires sont également bienvenus. Alors, Stéphane, hein, qui nous raconte son histoire, donc, qui est arrivé à son premier meeting, puis qui a vraiment aimé ça, cet accueil-là, qui a pris le gros livre qui lui a été offert par les membres, bien sûr, un bel accueil de la part des membres, puis qui est arrivé devant son fils avec la solution. Alors, on va l'écouter immédiatement pour savoir qu'est-ce qui l'a fait à partir de là pour se rétablir parmi les alcooliques anonymes.
Alors, quand je suis arrivé avec une joie incroyable, et puis là, j'ai... bien sûr, entamé finalement j'ai signé le fameux divorce de quand même 17 ans. Et puis écoute, moi je l'ai vu comme une grâce, parce que vraiment c'était une relation vraiment dysfonctionnelle. Il y avait aucune voie de sortie vraiment là. Donc, après coup, là, ça fait 2 ans, et j'ai pris la bonne décision. Et puis, j'ai pris cette décision-là parce que vraiment, j'ai su qu'aujourd'hui, j'étais correct. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je savais que j'étais correct avec vous autres. Fait que, donc, après ça, moi, j'ai fait du meeting. C'était juste avant la COVID. Tout était beau. J'ai fait du meeting à Boucherville. J'ai adoré. C'est sûr que après ça, les autres fois, là, j'étais moins nouveau, hein. Fait que là, la vie, on va dire, est arrivée, hein. J'étais plus le, il y avait plus de fil, hein. Fait que là, j'ai dû faire comme ma place. Mais on me disait, ben, tu sais, crois en Dieu. Fait que là, j'ai tout fait ce qu'on m'a dit, tu sais. C'est ça, ok, je vais faire ça. Moi, je voulais être heureux, là. Je voulais sortir de là, mais vraiment. Et puis, j'ai embarqué dans cette affaire-là, et puis je me suis trouvé, là, il disait de trouver un parrain, et puis, ce parrain-là, il me disait de lire le gros livre, et puis que j'ai lu, il me disait de lire 2 pages, fait que j'ai lu 2 pages par jour, tout ça. Puis, j'ai eu même un email à un moment donné de lui disant qu'il y avait une radio qui faisait les enregistrements de partage. Fait que moi, il m'a donné ça, cette espèce de lien-là. Fait que moi, j'allais sur CKBL. Et puis, j'ai vu que je travaillais pas. Moi, l'hiver, je travaillais pas. Et j'écoutais 3 partages par jour. Puis, dans le temps, c'était avec René. Mm-hmm. Et puis, ces partages-là, j'ai vraiment, mais vraiment aimé ça. C'est avec, j'ai appris beaucoup de ces partages-là. Et puis, je voyageais. Moi, mon ex est brésilienne. Et puis, j'allais au Brésil. J'avais une maison là-bas. Et puis, juste avant la COVID, j'étais allé au Brésil. Puis, mais j'étais à Cuba aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, même au Brésil, j'écoutais les podcasts. Et puis, je m'endormais avec ça. Puis, ça, juste avoir ça... Ça me sécurisait, tu sais. Et puis j'ai fait des meetings au Brésil. Et puis ça a été waouh, j'étais arrivé là, puis c'était la même énergie, c'était vraiment merveilleux. Puis d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai parlé devant du monde, c'était au Brésil, tu sais. Fait que je parlais le portugais, mais portugnol comme on dit, parce que j'étais rendu un peu cubain là. Fait que donc moi j'étais arrivé, et puis c'était le 13 mars, et puis c'était la COVID. Donc, Là, j'ai doublé les partages. J'ai écouté quasiment tous les partages qu'il y avait sur votre site, tout ça. Et puis, même il y en a que j'ai écouté trois fois, quatre fois, cinq fois. Il y en a un qui s'appelle Jean-Louis. Écoute, je l'adorais parce qu'il parlait d'agoraphobie. Puis là, je l'écoutais. Puis le plus beau de cette histoire-là, c'est que je l'ai vu sur Zoom après, tu sais. Juste avec sa voix, parce que moi, je le voyais pas. Puis c'était magnifique. J'ai dit, je te reconnais. Parce que lui, il m'a reconnu parce que... il m'a pas reconnu, mais je veux dire, moi, je parlais du Brésil. Puis il disait, il y avait comme une affaire avec le Brésil. Comment qu'il disait ça? Chiquita from Brazil. Fait que là, il a dit ça. Je dis, hey, je t'ai reconnu. Fait que, tu sais, mais là, j'ai jamais vu ce monsieur-là. Et un jour, je vais le revoir. Je sais qu'il va dans un meeting, puis un jour, je vais aller le voir. Donc, moi, j'ai cheminé, moi, j'ai rentré dans le Zoom, finalement. Et moi, j'avais pas le choix. Parce que si je lâchais une semaine, une fois, j'avais lâché comme une semaine, tout ça, genre. Et mais les comportements revenaient, là, tu sais, le impatient, irritable et mécontent et les peurs, tous mes comportements revenaient. Puis là, j'étais là, wow, ok. Fait que là, je me pluguais, mais j'étais super gêné. Je fermais ma caméra, tout ça. Mais à force que je rentre un peu, que ça, j'avais pas le choix, j'ai besoin de vous, comme je vous ai dit avant. J'ai besoin, puis là, j'ai senti que j'avais vraiment besoin de vous. Sinon, je meurs, je pouvais retourner à une rechute possible. Fait que moi, j'ai fait tout jusqu'à un an. Sur Zoom, tout ça, j'avais ma petite gang, tout ça, et puis, moi, à un an, ce qui s'est passé, c'est que, vu que, tu sais, on parle que comme un tu sais, moi, je faisais du meeting, tu sais, le fameux triangle AA, là, qu'ils disent que c'est du service, fait qu'il y a le, tu sais, l'unité, dans le fond, c'est les faire des meetings, il y a le service, tu sais, c'est impliqué, là. Fait que moi, je faisais ça, tout ça. Mais après coup, j'ai vu que il manquait le rétablissement qui est en dessous, qui est la base, tu sais. Mais moi, je savais pas à ce moment-là. Puis je regardais les étapes de loin. OK, un moment donné, tu sais. Mais moi, mes comportements, même à un an, ils sont revenus. Et j'étais impatient, irritable et mécontent tout le temps. Et j'ai même... été violent avec mon fils, mon fameux fils que j'ai dit qu'il avait de l'espoir. J'ai été violent avec lui dans le temps de Noël pour des niaiseries. Puis là, je me mettais la tête, les mains sur la tête. Puis je disais, qu'est-ce qui se passe? J'étais à jeun, puis je partais avec des crises débiles. Là. Puis j'appelais quelqu'un, le gars, il disait, fais du meeting. Fait que c'est ça, je faisais du meeting. Puis à un moment donné, écoute, l'anxiété revenait. Fait que moi, j'ai crié à l'aide sur un Zoom. Puis un monsieur qui m'a tendu la main, il dit « Appelle-moi mon chum ». Puis là, je l'appelle le lendemain, il me dit « T'as-tu un gros livre ?» Je dis « Oui, j'ai un gros livre, je l'ai lu trois fois ». Fait que il dit « Garde, va lire l'opinion du médecin, puis après ça, appelle-moi ». Fait que nous, on a commencé les étapes ensemble par téléphone, je l'avais jamais vu ce monsieur-là. Puis on commençait les étapes et j'avais pas compris encore les étapes. La première étape, les gens disaient que c'était une obsession mentale avec une allergie physique. Et moi, j'étais là, voyons donc. Mais là, dans le gros livre, je l'avais lu trois fois en plus. Hein. Puis dans le gros livre, avec lui, il m'a tout expliqué avec ses expériences de son parrain. Il m'a tout expliqué la maladie. Puis là, avec le temps, parce que j'avais encore un petit sourire en coin, hein, de pas accepter que j'étais un alcoolique. Je l'avais pas encore admis, finalement. Et là, avec le temps, je l'ai admis. Je l'ai admis que j'étais un alcoolique, puis que j'avais, que dans le fond, j'ai admis que j'avais une allergie physique. Quand je prends mon premier verre, là, c'est un phénomène anormal qui se produit, puis je suis plus capable de m'arrêter. Et puis que j'avais aussi une maladie mentale, on va se dire les vraies choses, là. Moi, je vais vous le dire, moi, tu comme moi, j'ai une maladie mentale, c'est l'obsession, ben, qui me dit que cette fois-ci, je vais en prendre juste un ou deux comme les non-alcooliques, là, comme mon frère, là, puis ça va être correct, c'est tout le temps comme ça. Moi, je faisais ça, je me disais, quand j'allais dans un party de famille, je me disais, je vais en prendre juste deux, trois, quatre, juste pour être, tu sais, correct, comme les autres, hein. Mais les autres, là, quand ils en prennent deux, trois, ben, ils ont comme une envie de vomir, tu sais. C'est comme ça, là, il paraît que c'est normal. Mais moi, c'est le contraire. Moi, les valves s'ouvraient, puis je me ramassais dans l'armoire à cognac à mettre ça dans le café. tout le temps. Et je revenais en auto avec ma famille en arrière, ma mère qui disait « Stéphane, t'es-tu sûr? Hey, ouais, correct! » Fait que tu sais, c'est ça, j'ai admis cette obsession-là, cette maladie mentale que j'ai. C'est une obsession, dans le fond, des buzz. On peut parler de l'alcool, on peut parler de la drogue, du sexe, de la nourriture, des jeux, du cash. J'ai toutes. OK? Fait que moi, j'admets ça. Et maintenant, après ça, on a fait les étapes. Je suis venu à croire. Quand que j'ai appelé Francis, lui, là, il m'a juste dit que ça marchait. OK? Il l'a fait. Fait que quand j'étais allé dans la salle de meeting, j'ai vu 60 personnes qui ça marchait. Mais là, je suis venu à croire que ça marchait. Donc, j'avais comme une espèce de... Je suis venu à croire, j'avais ma puissance supérieure, il y a quelque part. Je sais pas, c'était pas clair encore, c'était imparfait. Mais si imparfait soit-elle, juste un petit peu, mais ça a fait le job. Et après ça, on a tombé dans la troisième étape.
Merci Stéphane. Je trouve ça tellement beau d'entendre ça. Aussi la franchise, hein. Puis effectivement, là, quand on dit le buzz, chercher le buzz, l'obsession mentale, tu décris super bien justement la première étape aussi de comment tu y es arrivé. Puis aussi l'aide de pas lâcher puis d'aller chercher de l'aide. Fait que là, toi, tu l'as fait une première fois au téléphone, mais après ça, tu l'as fait une deuxième fois sur Zoom quand tu as vu que ça allait pas mieux, même quand on boit pas. Parce qu'il faut croire que on dit 15% c'est notre problème avec la boisson, l'alcool, le liquide, le fameux liquide, là. Mais il y a 85% du reste, tu sais, qu'on doit s'occuper, nos comportements, puis tout ça. Et puis c'est pas une petite affaire non plus, là. Puis on se ramasse avec ça une fois qu'on a plus la bouteille, là. Puis t'es allé chercher l'aide, puis heureusement, un bon membre qui est tombé sur ton chemin, ou encore une fois, il a fait sa 12e, puis là, il a dit « OK, on s'appelle », puis je trouve ça beau, je trouve ça vraiment beau, l'entraide qu'il y a chez les Alcooliques Anonymes, puis comme tu l'as dit au début, on se sent plus jamais seul, parce qu'il va toujours avoir quelqu'un. Si on demande l'aide, on va toujours avoir quelqu'un pour nous l'apporter de façon adéquate, puis d'y croire. Alors, je vous laisse là-dessus, mes chers amis, mes auditeurs, là, à la maison. Et puis, on revient tout de suite après la pause parce qu'il nous reste encore un segment pour entendre l'histoire de Stéphane. C'est sûr que c'est pas fini, hein? Restez avec nous.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous revoilà, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Il y a des réunions sur Zoom, comme nous a parlé Stéphane tout à l'heure. Lui, c'est par là beaucoup qui a pu se rétablir. Il est arrivé avec la pandémie, alors il n'y avait pas beaucoup de meetings d'ouvert. Et par téléphone aussi, il y a les réunions téléphoniques. En tout cas, il y a des réunions tous les jours, partout. Alors, allez-y, n'hésitez surtout pas à vous faire du bien. Donc, nous allons retrouver, bien sûr, Stéphane, là, qui est dans le quatrième segment de son partage, puis il nous parlait des étapes. Il a commencé à faire les étapes, donc, avec un membre, là, qui a fait sa première étape, là, vraiment, il a admis, puis il nous a bien expliqué comment ça se passait, là, pour lui, là, d'admettre qu'il était un alcoolique. Alors, on se met à son écoute. Alors, à toi, mon cher Stéphane.
Bon, donc, je t'ai rendu à ma troisième étape avec toujours avec mon parrain et le gros livre, tout ça. On se parlait par téléphone. Et puis là, la troisième étape, il m'a expliqué, c'est que lui, la puissance supérieure, quand que moi, j'ai venu à croire à quelque chose, hein, qui dans le fond, c'est pas une personne, tu sais, c'est, je suis venu à croire que ça marchait, tu sais. Et puis, moi, c'est ça, que je me suis accroché à ça, et c'est ça qui m'a fait perdre la soif. Moi, j'ai perdu la soif du jour, que j'ai, que j'ai pilé là, sur le stage le vendredi soir. T'sais. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu quelques petits épisodes de peut-être des idées, mais aujourd'hui, avec maintenant que je suis dans mon programme, que je le fais à chaque jour, ces idées-là sont disparues. Et ça, c'est un jour à la fois, c'est un sursis. Donc là, je suis rendu à ma troisième étape. Et puis, j'aimerais juste faire une espèce de c'est quelque chose que j'ai lu, je pense qu'il est dans le gros livre, mais il est dans un autre document, OK? Puis j'ai trouvé ça très intéressant pour comprendre un peu le croire et la foi. Moi, on va dire que je m'en vais dans une ville, OK? Je fais une situation. Je déménage dans une nouvelle ville. Mon auto est cassée. Et là, je connais personne, OK? Je connais pas de garagiste, je connais personne. Et je vois mon voisin qui a l'air correct. Je lui demande, « Hey, tu connais-tu un bon garagiste à me conseiller? » Tu sais, je connais personne ici. Là, il dit, « Oui, va voir Bob. Va voir Bob, il est super cool. Lui, il fait ça avec moi, puis c'est correct. » Donc, moi, je m'en vais là, à ce moment-là. Bon, je connais pas Bob, là, mais je crois en ça. Je suis venu à croire que lui, regarde, mon voisin, il le dit, là. Mais dans le fond, je peux faire une référence à Francis, à mon groupe. Fait que là, je suis venu à croire que oui, je m'en vais là avec une croyance avec le towing, je m'en vais au garage. Fait que là, je m'en vais au garage chez Bob, je laisse mon char. Là, il me le répare, il m'appelle, il me charge un bon prix, il me répare, tout est beau. Là, je m'en vais chez moi, tout est correct. Un an plus tard, moi, j'ai un autre problème, là, c'est la direction, cette fois-ci. Qui je vais appeler? Je vais appeler Bob, c'est sûr. Là, j'ai confiance en lui. Donc, c'est un peu ça, la troisième étape. C'est que là, maintenant, j'ai confiance à, hey, le fait, ma puissance supérieure, quand j'étais là, je suis venu à croire, là, il l'a fait pour l'alcool. Mais Christy, il va le faire pour tous mes autres problèmes. Toutes mes autres obsessions que j'ai, puis j'en ai en tatarnouche, les obsessions. Puis ça, c'est de jour en jour. Fait que moi, si je pense, quand j'ai une obsession, je pense à lui, là, mais il me l'enlève, tatarnouche. Et puis c'est aussi pour les peurs, pour les ressentiments, toutes les choses, les émotions, surtout les ressentiments, les peurs. Et le ressentiment, c'est le problème numéro un chez les alcooliques. C'est ça qui souvent crée la soif, hein, parce qu'on est en crise, là, c'est une bonne raison d'aller boire. Ça m'est arrivé. Et puis, après ça, on a lu ça. Après ça, là, c'est la quatrième étape. Là, je vais être bien avec moi-même. La 4, jusqu'à la 7, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, c'est être bien avec moi-même. Fait que là, moi, j'ai fait un inventaire, OK? Précis sur de toute ma vie, OK? Là, il fallait que je fasse mes torts, OK? Premièrement, c'est les torts que les gens m'ont fait. Dans le fond, c'est la liste des ressentiments. Et là, j'ai tout fait. Premièrement, j'ai fait mon père, pauvre papa, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai tout écrit ce qu'il m'avait fait, tu sais. Il me donnait pas d'attention. Il m'envoyait chier. Ou il me traitait de cacaille ou je sais pas quoi. Et là, j'ai marqué ce qu'il avait touché. Quel instinct qu'il avait touché. J'ai tout noté ça. Hein, mon père, ma mère. J'en avais à peu près 150 personnes. Même le garagiste Bob qui me fourrit, je l'ai mis dessus, tu sais. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, j'ai tout fait ça. J'ai fait à peu près 150 personnes. Après ça, il me dit, bon, qu'est-ce que je fais, là? Il dit, là, tu vas chaque personne, là, il dit, tu vas leur souhaiter bonheur, santé, prospérité plus que toi. Fait que là, OK. Fait que là, je fais ça. J'ai fait ça à chaque personne. Puis tabarnouche, je les ai toutes pardonnées. Je les ai toutes vues bien, toutes heureuses, joyeuses et libres. Puis, en les voyant joyeux et ribes, j'ai pu les voir qui étaient malades. Ils étaient malades comme moi. Et à ce moment-là, je les ai pardonnés. Après ça, il me dit, bon, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Il dit, là, tu vas faire la liste de tes torts à toi. Fait que là, il y en a un petit peu moins. J'en avais à peu près, disons, on va dire 75. Mon père encore, pauvre de papa. Fait que là, j'ai écrit que j'avais volé de l'argent, que j'avais, je l'ai envoyé chier, que j'ai pris son char à 10 ans, puis j'étais allé faire un tour sans sa permission. Fait que toutes des bébelles comme ça, mes enfants, mon ex, etc. Il y en a après 75. Fait qu'après ça, puis j'ai écrit mes torts. Et après ça, ce que j'aurais dû faire. Fait que j'aurais dû, tu sais, comme envoyer chier mon père, ben vas-y, j'aurais dû dire, ben tu sais, père, j'aimerais ça que tu me donnes, tu sais, comme tu être plus avec moi. Dans le fond, c'est un peu ça ce que je voulais, là, tu sais. Tu sais, dans le fond, c'est ça ce que j'aurais dû faire, tu sais. Donc, après ça, j'ai fait la liste des peurs. J'avais à peu près 75 types de peurs. J'en ai en tatarnouche des peurs. Puis là, après ça, j'ai fait les torts que j'ai faites et sexuellement. Les torts que j'ai faites et les gens qui m'ont fait du tort sexuellement. Puis j'ai fait le même processus pour qu'est-ce que j'aurais dû faire et aussi je les ai pardonnés aussi. La même chose. Et hein, après ça, là, j'ai dit, bon, OK, j'ai fait ma 4, c'est quand même, ça a pris quand même 3 mois, là, in and out, là. Puis, des fois, je procrastinais, là, puis il me disait toujours, tu veux-tu être heureux, joyeux et libre, là? Fait que là, c'est ça. Fait que là, ça, c'était ma carotte, c'était ma carotte. Fait que là, à un moment donné, j'étais allé le voir, lui, il habitait à Asbestos, je l'avais jamais vu de ma vie. J'étais arrivé un dimanche chez eux, un beau journée ensoleillé, il arrive avec son chien, et il me dit, où tu veux t'asseoir, mon chum? Fait que là, je me suis assis et j'ai parlé pendant 6 heures de temps. Puis lui, à chaque fois que je parlais de mes torts, il me disait mes défauts. Inconsidération! Quand je voyais chez mon père, c'était ça, tu sais. Quand que moi, je volais, j'ai volé mon père, tout ça, il disait, malhonnête! Voleur! Il m'a traité de voleur, tu sais. J'étais allé là pour faire traiter de voleur, tu sais. Après ça, l'égoïsme au niveau sexuel. Tu sais, moi, j'en demandais tout le temps, au niveau de l'argent, calculateur. Tu sais, même avec des filles, des fois, je faisais quelque chose dans le but d'avoir du sexe, tu sais. Fait que c'est des calculateurs. Et puis, après ça, il y a les peurs. Les peurs, c'est un gros défaut aussi, être peureux. J'en ai plein de peurs. Tu sais, c'est toutes des peurs. C'est 98% sont toutes... C'est pas scientifique, là, mais c'est tout quasiment irréel. Tu sais, je meurrais pas parce que quelqu'un m'aime pas, là. Tu sais, bon. Donc, après ça, c'est la 6, la 7, avec les défauts qui me dit... Avec la liste de défauts, disons, il y en a 5 gros, là, qui me dit que, garde, ça, c'est pas mal des gros. Mais moi, après ça, avec mon Dieu de ma 3e étape, que j'ai confiance, hein, là, je peux, maintenant, quand j'ai un défaut, on va dire, inconsidération, j'arrive avec ma mère. Moi, avec ma mère, j'étais très impatient. Je sais pas pourquoi, là, elle m'énerve, OK? Fait que là, moi, j'enlève les considérations. Dieu, enlève-moi les considérations, s'il vous plaît. Christy, enlève, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est le bonheur qui remplace. C'est comme ça. Regarde ce que je te dis. Moi, c'est de même. Fait que là, après ça, j'ai fait la 6, la 7. Puis ça, la 6, la 7, ça se fait tous les jours, tout le temps, peut-être 1000 fois par jour, tu sais. Puis avec le temps, ça va mieux. Après ça, là, c'est les... Là, après ça, je... La 8, la 9, tout ça. La 8, la 9, c'est bien avec les autres. Fait que là, moi... Parce que moi, je me promène dans la rue... Quand je me prenne dans la rue, puis j'ai une espèce de culpabilité, là. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de pas bien. Puis ça, moi, là, je vais plus avoir ça, cette affaire de mal, là. Parce que si j'ai mal, je suis pas bien avec les autres, là, mais ça peut me retourner à avoir du ressentiment et boire la culpabilité, puis ça, puis retourner dans les obsessions. Et ça, si je fais ça, je peux... ça va pas bien. Je sais pas quand je vais revenir, tu sais. Je peux aller à la prison, la folie, la mort. Donc, moi, j'ai fait une liste de toutes mes amendes honorables. Je pense que j'en avais à peu près 70. Puis là, j'en ai fait 40. Puis, je suis allé voir chaque personne. Mon père, le premier, que je le voyais comme un dinosaure. Mais j'ai pris mon courage, toujours avec Dieu, tu sais. C'est comme si j'allais me battre. Je m'en souviens, je me suis battu une fois quand j'étais adolescent. Puis, j'ai pris mon courage. Je voyais aller. Mais c'était dans le même intensité, la même émotion. De confronter cette peur-là, tu sais. Le courage, c'est ça, c'est d'agir avec une certaine peur, tu sais. Fait que j'étais allé là, puis finalement, ça s'est super bien réglé dans le restaurant. J'ai réparé mes torts. Je devais de l'argent, j'ai volé, je devais de l'argent. Ben, j'ai donné du nain, non, le gros, garde-les, là. J'ai dit, OK, mes pages, faut que je le répare, moi. Parce que sinon, moi, je vais être mal encore. Je vais rester encore avec la culpabilité. Il me dit, je dis, moi, si tu le veux pas, je vais te donner dans un organisme. Il dit, t'as-tu un organisme, Pat, tu veux? Il dit, oui, OK, garde ça pour Enfant Soleil. J'ai dit, OK. Fait que j'ai envoyé ça à Enfant Soleil. Et quoi, ça m'a fait un bien énorme quand j'ai envoyé l'argent. Puis j'ai fait ça à plein de personnes, à mes frères, tout ça. Et le mieux, ça a été mes enfants. Quand que je me suis assis avec eux autres, je dis, bon, là, c'est avec vous autres. Puis là, eux autres, ils riaient. Mais quand j'ai parlé des vraies affaires, que je m'excusais de les avoir donné des claques, de les avoir parlé mal, je me suis excusé d'avoir divorcé aussi, que j'aurais dû faire un choix meilleur, et toutes des choses comme ça. Puis après ça, la 10, la 11, la 12, tu sais, c'est toute la prière, la méditation, c'est ça le contact conscient pour vivre à chaque jour, tu sais, avec Dieu en dedans de moi. Puis c'est de passer toute ma journée bien. Puis la 12e, c'est ça que je fais en ce moment, c'est livrer le message. Fait que c'est ça. Moi, je vous aime. S'il y a personne qui vous a dit aujourd'hui, vous êtes beau, puis je vous aime. Merci.
Oh, merci Stéphane. Ouf, hein? Passer au travers toutes les étapes comme ça, quelle affaire. C'est comme une course contre la montre en même temps. Je regardais le temps passer, je me disais, wow, il va-tu réussir à aller jusqu'à la 12e? Ben oui, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité. Merci Stéphane, nos auditeurs, l'équipe, Yvon à la console, les collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle. Je souhaite une super belle semaine. À bientôt.